Bien, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans la prophétie d'Ésaïe, au chapitre 49. Et on va voir donc le deuxième chant ou poème du serviteur, Ésaïe 49, et on va lire les sept premiers versets. Ésaïe 49, commençant verset 1. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Et il m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. » Et moi j'ai dit, « C'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel, et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants. Des rois le verront et ils se lèveront, des princes et ils se prosterneront, à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. » Et jusque-là, la parole de Dieu. La dernière fois, donc, on a vu le premier chant, le premier poème, qu'on a appelé « La préparation du serviteur » ou « Comment Dieu, comment l'Éternel a équipé son serviteur pour accomplir sa mission. » Et on a dit que dans cette deuxième partie d'Ésaïe, il y avait deux dimensions. Dans l'activité divine, il y avait la dimension politique, géographique. Et Ésaïe voit l'avenir, il avait prophétisé sur le jugement de Jérusalem, l'exil en Babylone, un jugement que Dieu avait déjà annoncé à Moïse. Si le peuple se détournait, c'était une des conséquences que Dieu allait amener le jugement. Et Dieu révèle à Ésaïe qu'il va susciter un premier serviteur, un premier sauveur politique. Ésaïe connaît même le nom, c'est Cyrus, le roi de Perse, à la tête d'un empire très puissant. Mais Dieu va utiliser ce roi païen comme son instrument pour libérer le peuple d'Israël et le ramener à Jérusalem. Mais Ésaïe connaît son cœur. C'est lui qui, dans la présence, rappelez-vous, dans la présence de Dieu, au début de sa prophétie au chapitre 6, bien qu'on estime qu'il est sans doute le meilleur prédicateur à Jérusalem, en Ésaïe 6, verset 5, il dit « Malheur à moi, je suis perdu, je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, des armées. » Ésaïe savait très bien qu'une restauration physique ou géographique ou politique n'était pas la solution aux problèmes humains. Et nous aussi, on doit se rappeler de cela. Il n'y a aucune solution politique pour un problème humain, pour un problème moral, pour un problème profondément ancré dans notre cœur. Les gouvernements peuvent nous guider, peuvent interdire certaines choses, mais ils n'ont aucun pouvoir pour transformer le cœur humain. Et donc Ésaïe voit cette double dimension, parce qu'il voit effectivement l'annonce de Cyrus, mais il voit un autre personnage qui apparaît à l'horizon, quelqu'un qui viendra bien longtemps après Cyrus, quelqu'un qui est plus difficile à définir que Cyrus, du moins pour Ésaïe. mais quelqu'un qui va délivrer son peuple de leur esclavage ultime, l'esclavage qui découle de la rébellion contre Dieu, la séparation d'avec Dieu, du péché, de la tragédie du péché et de l'esclavage au péché. Ce serviteur, nous l'avons vu, c'est le serviteur de l'Éternel. Et dans ce deuxième chant, ce deuxième poème, on a le serviteur, comme on vient de le lire, qui parle le plus souvent. Et on voit son appel ou sa vocation. Et si on posait la question qu'on avait posée la semaine dernière à Ésaïe, Ésaïe, qui est ce serviteur d'après toi? À la lumière de ce que Ésaïe vient de décrire, Ésaïe répondrait en se basant sur le verset 3, ben, ce serviteur, c'est Israël. Hein, le verset 3 dit, l'Éternel, c'est le serviteur qui parle, et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. Mais on sait que la réponse n'est pas aussi simple que cela. Ce n'est pas le peuple d'Israël, parce que plus loin, au verset 5, maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés. Ce serviteur est appelé Israël, et c'est clair que ça ne peut pas être l'Israël national, l'Israël politique, ni même l'Israël encore en exil. C'est un personnage que Dieu appelle Israël, qui va venir dans le but de sauver, de restaurer Israël. Et on a ici non seulement cette double dimension d'un sauveur, on a Cyrus qui est annoncé et ce serviteur qui est annoncé, mais on a cette double dimension où Israël sera le sauveur d'Israël. Alors bien sûr, la question c'est qui est cet Israël qui va sauver Israël? Et la réponse, c'est que cet Israël qui va sauver Israël est en fait celui qui va rassembler toutes les images, toutes les ombres de l'Ancien Testament et que Dieu va donner dans le cours de l'Ancien Testament. Celui qui va être l'expression de ces ombres, c'est lui qui sera le véritable Israël et qui viendra sauver son peuple. Je ne sais pas si les jeunes se rappellent, ça a passé tellement, tellement vite, mais il n'y a pas si longtemps que ça, on ne pouvait pas prendre de photos avec des smartphones. On avait besoin d'un film. Ça, si vous avez connu vaguement, très peu, peut-être pas, non. Des pellicules, non, vous n'avez jamais utilisé de pellicule. Hein. Et on avait un appareil photo, il fallait mettre une pellicule, et à la fin, une fois qu'on avait terminé la pellicule de 24 poses, 36 poses, il fallait soit l'amener chez le photographe pour qu'il la développe, soit l'envoyer par courrier pour que les photos soient développées. Et quand les photos revenaient, on avait toujours des négatifs. Alors, je ne sais pas si les adultes vous vous amusiez à regarder les négatifs, à voir dans quel sens il fallait le mettre, à essayer de dire c'est qui apparaît là sur cette photo, j'arrive pas à le reconnaître sur cette photo. Et en fait, cette image, je la trouve très intéressante pour décrire ce que l'Ancien Testament nous donne. L'Ancien Testament nous parle de Jésus-Christ, mais comme des négatifs. Comme des négatifs. Et le Nouveau Testament, c'est la photo. Le Nouveau Testament, c'est la révélation pleine, très claire, nette. L'Ancien Testament nous donne une série de négatifs. Et parfois, c'est difficile d'identifier ce sauveur, ce serviteur, ce rédempteur. Mais ces négatifs nous parlent et couvrent en fait toute l'histoire de la révélation de Dieu dans l'Ancien Testament. Et Matthieu, par exemple, comprend ce lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Quand le Seigneur Jésus-Christ, après sa naissance, et à cause de ce que Hérode a fait, le Seigneur Jésus-Christ est emmené en Égypte, ses parents fuient en Égypte avec lui. Et il reste là pendant 2 ans et ensuite il revient d'Égypte. Matthieu dit que cela est l'accomplissement de la prophétie d'Osée, Matthieu 2, verset 15. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Mais Votre sortir de l'Égypte, c'est d'abord l'Exode, non? C'est d'abord l'Exode. Mais Matthieu comprit qu'il y avait aussi une référence à Christ. Il y avait aussi cette référence au Seigneur Jésus-Christ. C'est Augustin qui disait, le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien Testament et l'Ancien Testament est révélé dans le Nouveau. Le Nouveau est caché dans l'Ancien et l'Ancien est révélé dans le Nouveau. Et Dieu plantait des modèles, des ombres, des images tout au long de l'histoire. Et il allait utiliser ces modèles comme des images pour le peuple de Dieu et pour annoncer ce qu'il allait accomplir quand il allait envoyer son fils, son serviteur, le Seigneur Jésus-Christ, comme sauveur de son peuple. Et c'est comme ça qu'il faut voir l'Ancien Testament et en particulier donc Ésaïe 49. On a un négatif devant nous. Et c'est pas toujours clair. Il y a des parties qui nous font pousser, nous poser la question, mais comment est-ce que cela s'applique au Seigneur Jésus-Christ? Mais quand on met ce négatif à côté de la photo, à côté de l'original, à côté de ce que les évangiles nous disent au sujet du Seigneur Jésus-Christ, alors on voit que Ésaïe, qui avait cette image un peu floue du serviteur, il a cette image de ce que Dieu allait faire en envoyant son Fils dans le monde. Et on a trois choses qu'on veut souligner ce matin. La première, c'est la vie de préparation. Le serviteur est appelé à une vie de préparation pour son ministère. Et on voit ça déjà dans les premiers versets, les versets 1 à 4. Il, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Une façon imagée, bien sûr, de décrire cela, mais quand on voit ce que les évangiles nous disent, on voit que dès la conception de l'enfant Jésus, Joseph et Marie savaient quel nom il fallait donner à leur enfant. Dès la conception, Matthieu 1, versets 20 et 21, comme Joseph y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Aujourd'hui, on nous dit que on découvre qui on est et quelle sera notre destinée quand on arrive à l'âge de 30 ans. Mais la destinée du serviteur est déterminée par l'Éternel dès le début. Dès le début. Et pendant les 30 premières années de sa vie, Dieu va équiper, va former son serviteur pour son ministère. Au verset 2, on lit, il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il a fait de moi une flèche aiguë. Sans doute une allusion au ministère, à la prédication du Seigneur Jésus-Christ. On se rappelle, par exemple, Apocalypse chapitre 1, dans la vision qui est donnée à l'apôtre Jean, il y a une épée qui sort de la bouche de Jésus-Christ. C'est l'épée de la parole, l'épée de la parole de Dieu. Et quand on lit les évangiles, on voit quel genre de prédicateur le Seigneur Jésus-Christ était. Il connaissait non seulement la parole, mais il connaissait réellement Dieu, bien entendu. Il est le Fils de Dieu. Mais la population, les gens étaient étonnés. Ce qu'on entend de lui est radicalement différent de ce qu'on entendait des enseignants de l'époque. Cet homme connaît les Écritures. Il est capable de les appliquer à nos vies. On n'a jamais entendu ce genre de choses. Mais c'est intéressant de revenir à ce verset 2, de voir ce que Ésaïe dit. Il dit, il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Et il rajoute, il m'a couvert de l'ombre de sa main. Et pour le dire d'une autre façon, Et ici, c'est sans manquer de respect, mais c'est pour utiliser cette image. C'est comme si Dieu avait son serviteur dans son sac pendant 30 ans. Il l'avait caché pendant 30 ans. Et ensuite, il lui dit maintenant, maintenant c'est à toi. Maintenant c'est à toi de te révéler. Verset 2, encore une fois, il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Le Seigneur Jésus-Christ était caché. La seule chose qu'on sait de son enfance, c'est qu'à l'âge de 12 ans, il est allé au temple avec Joseph et Marie. Et le reste, on ne sait rien. Il était caché. Et on se rappelle de la question de Nathanaël, quand Philippe est allé le voir en Jean 1, verset 46. Nathanaël qui pose la question, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Voilà, le Seigneur était caché, il était préparé pendant 30 ans. Pendant 30 ans, il était là à être préparé pour son ministère. Il était caché jusqu'à l'heure fixée, préparé pour accomplir son ministère. Et pourtant, quand on lit au verset 4, c'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. On se demande, mais est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a pu dire cela? C'est en vain. Quand on se rappelle de sa crucifixion, on se rappelle que son âme était troublée jusqu'à la mort. Il dit à ses disciples qui l'ont accompagné pendant 3 ans, il leur dit, mais chacun de vous va m'abandonner. Et c'est ce qui s'est passé. Même Pierre l'a renié 3 fois. Et à la fin, c'est comme s'il n'avait rien accompli. Et sur la croix, après avoir vu ses disciples s'enfuir de lui, c'est comme s'il disait à son père, mais mon Dieu, toi aussi, eux, ils m'ont abandonné, toi aussi, tu m'abandonnes. Et c'est ce qu'on voit dans ce négatif, dans Ésaïe. On se demande, comment est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on voit les dernières heures du Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qui s'est passé. Les disciples sont partis, on voit le Seigneur qui est seul sur la croix. Mais le verset 4 ne s'arrête pas là. Parce que le verset 4 dit, mais mon droit est auprès de l'Éternel, ma récompense auprès de mon Dieu. La fin de l'histoire, ce n'est pas lorsque Jésus-Christ s'est écrié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La fin de l'histoire, c'est quand il s'est écrié, tout est accompli. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Voilà. Voilà la préparation, toute une vie de préparation pour arriver à un point où il est seul. Mais pourquoi? Deuxième point, pour accomplir son ministère de restauration, versets 5 et 6. Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés. Il parle de prendre ces gens, des gens brisés, dispersés, éloignés, de les ramener à la maison. C'est l'histoire, bien sûr, du fils prodigue. C'est la semaine dernière que tu as lu cette histoire du fils prodigue. Le fils, vous vous rappelez, était éloigné comme le peuple était éloigné, non seulement politiquement, il allait être éloigné politiquement et géographiquement. Cyrus allait les renvoyer sur la terre d'Israël, mais spirituellement parlant, le peuple était éloigné, tout être humain est éloigné de Dieu, spirituellement parlant. Tout être humain est éloigné des ressources que possède le Père Céleste. Et voilà le Père qui allait susciter un serviteur, qui allait ramener le peuple de ce pays lointain pour qu'il jouisse du privilège d'être un enfant dans la maison du Père. Vous vous rappelez comment le fils prodigue est rentré à la maison. Il répétait ce discours en disant, le meilleur que je puisse espérer, c'est de servir comme esclave. Peut-être qu'un jour, il me dira, c'est bon, tu as fait assez, reviens dans ta famille. C'est comme ça que beaucoup d'évangéliques pensent aujourd'hui. Il faut faire suffisamment et on peut espérer être accepté dans la famille. C'est pas ce que dit la parole, c'est pas ce que dit la parabole du fils prodigue. Le père, voyant le fils au loin, accourt vers son fils, même si cela allait le déshonorer, parce qu'à l'époque, il y avait une cérémonie spécifique pour accueillir quelqu'un, pour accueillir un fils prodigue, mais le but de cette cérémonie, c'était d'humilier le fils prodigue, et de le rabaisser, de lui dire « tu n'aurais jamais dû partir et de causer de tels soucis à ta famille ». Mais quand le fils commence son discours, « Père, j'ai péché contre le ciel, contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, prends-moi comme serviteur », le père va le prendre dans ses bras jusqu'à quasiment l'étouffer. Et dit, « Mais celui-ci est mon fils qui était perdu, il est retrouvé, il était mort et le voilà vivant. » Voilà l'évangile, voilà l'évangile. Le Seigneur, le Dieu accueille tous ceux qui reviennent à lui, pas dans la repentance et la foi, dans le Seigneur Jésus-Christ. Il les accueille. Il n'y a pas de « fais quelques années de service et puis on verra, peut-être que tu redeviendras mon fils ». Non, c'est l'accueil qui est à bras ouverts. Isaïe rajoute fin du verset 5 et puis le verset 6, « Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Le serviteur ne va pas seulement restaurer le peuple choisi, mais les nations, ceux qui ne sont pas le peuple choisi. Il va sauver un peuple issu de toutes les nations de la terre. Bien sûr, certains font partie de ce peuple qui était choisi dans l'Ancien Testament, mais il y a aussi parmi toutes les autres nations, y compris la France. Le serviteur est appelé, préparé pour ce ministère de restauration, de ramener le peuple de Dieu, ceux que le peuple s'est choisi, de les ramener à lui. Et on voit troisièmement l'exaltation de ce serviteur, verset 7. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Quand on met en parallèle les évangiles, qu'est-ce que le peuple a crié? Le peuple a crié que son sang retombe sur nous, on ne veut pas de lui. Le peuple a crié « Crucifie-le, crucifie-le !» Et les puissants de ce monde, Caïphe, Hérode, Ponce Pilate, l'ont traité comme leur esclave. Et quand on y pense, Judas Iscariote l'a vendu pour le prix d'un esclave. Celui qu'on méprise, celui qui est en horreur au peuple. Et là, le négatif d'Ésaïe devient plus clair quand on voit que cela, ce qui s'est passé pour le Seigneur Jésus-Christ, mais on voit aussi le résultat de son humiliation. Quand le Fils s'est humilié pour nous, il nous apporte le salut. Et parce qu'il a fait cela, le Père va l'exalter. Des rois le verront et ils se lèveront. Alors aujourd'hui, on ne sait pas trop dans notre pays trop de choses au sujet de la royauté, parce qu'on connaît des présidents maintenant. Mais les rois ou les reines ne se lèvent pas. Si quelqu'un est invité à se présenter devant la reine d'Angleterre, celle-ci ne va pas se lever pour l'accueillir. Les rois et les reines ne se lèvent pas pour accueillir les simples mortels. Mais dans la présence du serviteur de l'Éternel, Ésaïe dit que des monarques seront contraints de se lever, les rôles seront changés. Quand on se présente devant la reine d'Angleterre, on nous enseigne qu'il faut dire « Votre Majesté ». Mais quand le Seigneur Jésus rencontre les grands et les puissants de ce monde, ce sont eux qui se lèvent. Ce sont eux qui vont dire « Votre Majesté ». Des princes, verset 7, se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Et c'est déjà arrivé, des princes, des monarques, se sont tournés vers le Seigneur Jésus-Christ, l'ont reconnu comme leur Seigneur, comme leur Sauveur, se sont humiliés devant lui, se sont abaissés devant lui et l'ont appelé « Votre Majesté ». l'ont reconnu comme leur Seigneur et leur Sauveur. On a donc ici une merveilleuse description du Seigneur Jésus-Christ, en négatif bien sûr, mais quand on le met en parallèle avec les évangiles, on voit quelque chose, une merveilleuse description de ce serviteur de l'Éternel qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et on se rappelle de ce qui s'est passé sur la route d'Emmaüs, de ce passage qu'on a lu tout à l'heure. Ces disciples qui étaient abattus, qui n'ont pas reconnu le Seigneur Jésus-Christ, qui a marché avec eux. Et quand ils l'ont reconnu, ils se sont rappelés tout ce qu'il leur avait enseigné à partir de l'Ancien Testament pendant qu'ils marchèrent avec eux. Et ils disent, mais nos cœurs n'ont-ils pas brûlé, brûlé de joie, parce que maintenant ils comprenaient, maintenant ils voyaient. Ils voyaient l'image en couleur, ils ne voyaient plus seulement le négatif, qui était parfois difficile à comprendre, mais ils avaient l'image qui leur avait été révélée, le Seigneur Jésus-Christ qui leur avait été présenté, et en expliquant que tout cela avait été annoncé dans le Nouveau Testament. Et donc c'est notre prière ce matin, que nous aussi, nous puissions non seulement voir le négatif dans l'Ancien Testament, mais voir la photo finale, la photo en couleur, la réalité, et non seulement voir la photo, mais connaître ce Sauveur personnellement, ce Sauveur qui a été préparé, qui a été appelé, et on va voir ensuite qui sera mis à l'épreuve et qui ensuite va souffrir pour être finalement glorifié. Et tout cela pour restaurer ce peuple, pour ramener ce peuple qui était loin de Dieu, pour le ramener et le réconcilier avec Dieu, son Père. Merveilleuse image donc de ce Sauveur, merveilleux Sauveur que nous avons en Jésus-Christ, parfaitement équipé, parfaitement capable, et nous savons qu'il a parfaitement exécuté l'œuvre qui lui était donnée, et il a parfaitement sauvé ce peuple. Que Dieu donc bénisse sa parole à nos cœurs, qui nous aide à la comprendre et à nous réjouir toujours plus de ce Sauveur que nous avons en Jésus-Christ. Amen.